I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Sœur, ouvre-moi, ou le chasseur me tuera. Lapin, lapin, intriga, me serre la main, me serre la main, serre la main.
Lui, c'est mon petit garçon. Il vous a probablement fait craquer avec sa petite chanson. Moi, je suis Shane Love. Une maman solo qui a décidé de partir à la rencontre des femmes du monde pour parler sans filtre de la maternité. Alors bienvenue à vous dans Le Tourbillon, le podcast qui parle de la maternité, la vraie, loin des filtres Instagram.
Mégane a toujours eu envie de devenir maman jeune et cela tombe bien car elle est rapidement tombée enceinte. Une grossesse au début difficile avec saignements et nausées fréquentes, mais tout se résorbe heureusement rapidement. Les mois restants se déroulent paisiblement, tous les tests habituels sont au vert et arrive le jour de la rencontre. Mégane accouche de son premier bébé, un petit garçon porteur de la trisomie 21. Elle ne s'en rend pas compte lors de leur premier regard, et c'est quelques heures plus tard, sans la présence de son conjoint, qu'un pédiatre peu empathique lui annonce froidement la nouvelle. Elle est seule dans la pièce, son monde s'effondre. Même pas le temps de réaliser ce qui lui arrive que Mégane est plongée dans deux univers complètement nouveaux pour elle, la maternité et le monde du handicap. Dans cet épisode, Mégane nous raconte la découverte de la trisomie 21 de son nouveau-né, comment elle et son mari ont tout de suite formé une équipe solide et créé leur cocon, pourquoi certains signaux ont été ignorés par le personnel médical, comment cette expérience de la maternité l'a fait grandir, et elle nous parle de l'arrivée de sa petite fille quelques années plus tard. Bonne écoute.
Bonjour Mégane.
Bonjour Shane.
Merci beaucoup de nous raconter ton histoire dans le tourbillon.
Bah, merci beaucoup de m'avoir donné cette opportunité-là.
Alors, tu es la maman de deux enfants. Quel âge ils ont ?
Je suis la maman de Gabriel qui a bientôt 5 ans et de Maïli qui a 14 mois.
Alors, on va revenir au tout début. Comment toi, tu voyais la maternité étant plus jeune ? Est-ce que c'est quelque chose que tu envisageais clairement ou pas du tout ?
Alors moi, j'ai toujours voulu avoir des enfants jeunes. Ouais. Pour le coup, c'était, je voulais pas attendre 30 ans. Enfin, pour moi, dans ma tête, je me dis non, ça faisait trop tard pour le premier. Non pas que je ne comprends pas les femmes qui attendent. Voilà, après chacun a son rythme. Mais c'est vrai que moi, du fait que mes parents m'ont eu jeune et que j'ai une relation très proche avec ma mère, on est assez fusionnels. Elle m'a eu à 21 ans. Je voulais voilà essayer de d'avoir en fait cette même relation que j'ai pu avoir avec ma mère en fait. Donc j'ai eu mon fils Gabriel à 22 ans.
D'accord. Alors tu étais en couple depuis combien de temps à ce moment-là ?
J'étais en couple avec Flo depuis 3 ans.
Et comment le sujet est arrivé entre vous alors ?
Bah Flo au départ c'est moi en premier qui a voulu avoir des enfants puis bah du coup j'ai attendu le feu vert. Hein. ça faisait un an et demi qu'on habitait ensemble et du coup je lui ai dit bah écoute moi j'aimerais bien et tout. Maintenant on était tous les deux en CDI etc donc voilà je lui ai dit bah écoute quand toi c'est bon pour toi tu me dis et puis bah j'arrête la pilule et puis on se lance quoi. Et puis au final ça va je crois que j'ai dû lui dire ça c'était en juin 2015 et puis au final ouais il s'est décidé ouais au mois de novembre.
Ça va.
Ça va.
Pas trop d'attente. Est-ce que tu es tombée enceinte rapidement ? Comment ça s'est passé ?
Alors j'avais arrêté la pilule un peu plus tôt du coup, je crois que c'était au mois d'août et puis ben ouais en fait quand il m'a dit non c'était au mois d'octobre du coup qu'il m'avait dit bah c'est bon on se lance et puis bah un mois plus tard en fait donc voilà j'avais arrêté la pilule 3 mois et puis bah ouais un mois plus tard donc oui ça a pris assez rapidement, j'ai pas eu d'attente en fait.
Et alors comment s'est passée cette première grossesse ?
Alors ma première grossesse ça s'est pas super bien passé au départ, après ça a été mais j'étais enceinte de 2 mois et demi et j'étais sur mon lieu de travail et j'ai dû partir en courant parce que j'étais en train de perdre beaucoup de sang. Donc en fait, je suis partie dans le speed. En plus, j'allais à l'époque, j'allais au travail en transport, j'avais une heure et quelques et je connaissais pas les hôpitaux du coin, donc j'ai dû revenir jusqu'à chez moi à la maternité et courir en fait et y aller tout de suite. Et au final, pour me dire que non, finalement, ça allait, mais j'avais un décollement du col, donc j'avais été alitée pendant 10 jours et ensuite j'étais revenue sur mon lieu de travail et du coup ça allait, ça s'était résorbé. Mais c'est vrai que ça m'avait fait un coup de flip parce que je me suis dit là, je suis en train de le perdre, ça y est, je fais une fausse couche. Enfin bon, c'était l'inconnu. En plus, dans mon entourage, j'avais pas forcément spécialement beaucoup de bébés, donc au niveau de mes amis, donc j'avais pas trop non plus à qui poser la question. Et au final, non, ça a été plus de peur que de mal. Donc je me suis reposée, puis au final, ça s'est bien passé. Après, par contre, j'ai bien vomi les nausées 3 mois. Non, pour moi, ça avait plutôt été jusqu'à 7 mois.
Ah oui.
Ouais. Y compris le jour de l'accouchement. Je crois que c'était la douleur, le stress, tout. J'ai même vomi le jour J. Donc ouais, dans la grossesse, c'est pas la plus compliquée. Je sais que voilà, dans un sens, il y a des femmes qui ont des grossesses bien plus compliquées que moi. Mais je m'attendais pas à ça, à vomir comme ça tout le temps, 5, 6, 7 fois par jour, tous les jours, jusqu'à 7 mois, j'en pouvais plus. L'avantage, c'est que j'ai pas pris beaucoup de poids.
Et du coup, alors, t'as eu un suivi particulier suite à ces saignements que t'as eu au bout de 2 mois?
Non, j'ai pas eu de suivi particulier. J'ai juste eu un contrôle écho pour regarder si ça s'était bien résorbé, ce qui était le cas. Et par la suite, la grossesse a été un suivi normal.
Et on t'avait expliqué ce que c'était exactement
On m'avait pas expliqué ce que c'était spécialement, que ça pouvait arriver, mais que voilà, au final, il était bien là, quoi. Il s'était accroché, donc okay. Il y avait pas de. Si je me reposais bien, une fois que c'était résorbé, après, il y avait pas de problème particulier.
Et alors, tout ton suivi de grossesse, comment ça s'est passé, les échos, j'imagine que tu as fait le parcours habituel.
J'ai eu le parcours habituel, ça s'est bien passé au niveau des échographies, tout ça. Et c'est vrai qu'avec le recul, je me suis rappelé en fait des petits détails que j'ai pas forcément trop prêté attention sur le moment, mais j'avais ma gynéco qui me disait oh ben il sera pas très grand, il a un petit fémur. Je dis ah bon? Oui oui. Et plus tard, je me souviens qu'elle m'avait dit je m'étais inquiétée un petit moment, alors qu'elle m'en avait pas du tout parler, elle me l'a dit bien plus tard. Il avait un petit peu les reins feignants, mais là maintenant c'est bon, c'est rentré dans l'ordre. Ben, il aurait été un peu judicieux de me le dire auparavant, au moment venu, quand vous en êtes rendu compte, non?
Ouais.
Mais non, ça non plus, elle me l'avait pas dit. Puis bon, c'est vrai qu'on fait confiance en fait, on se dit bon, c'est une professionnelle, etc. Et puis moi j'aime bien poser beaucoup de questions, etc. Je suis quelqu'un comme ça qui aime bien comprendre. Et c'est pour ça que ça m'avait interpellée, je me suis dit bon, ok, c'est bizarre quand même. Pourquoi elle me l'a pas dit? J'ai dit mais bon, apparemment, si tout est rentré dans l'ordre, ok. Et c'est voilà, au moment de l'accouchement où au final j'ai appris la nouvelle que mon fils était porteur de trisomie 21, tous ces petits détails en fait, je me dis mais elle est sérieuse, elle avait détecté des petites choses. Et en fait, elle a pas fait le rapprochement. Pourquoi? Parce que je suis jeune et qu'en gros, conclusion égale une femme jeune n'aura pas d'enfant porteur de trisomie 21. Alors que si, l'âge, ce n'est plus à en tenir compte en fait.
Et t'avais fait les tests. Pour détecter justement, c'était quoi, c'est une prise de sang?
J'avais fait la prise de sang, le tri-test. Mon taux était revenu pour l'époque classique, parce qu'il faut savoir que j'aurais été dépistée aujourd'hui. Là, oui, le seuil a changé. Et moi, j'avais été détectée à 1 sur 750. Sauf que maintenant, à 1 sur 750, oui, on m'aurait proposé de faire une DPNI. Donc, c'est une autre prise de sang qui, elle, est sûre à 99%, même si, encore une fois, moi, j'ai connu des mamans à qui elles ont fait la DPNI. On leur a dit non, non, tout va bien, finalement, négatif. Et au final, à l'accouchement, bébé trisomique. Mais moi, du coup, à ce moment-là, à l'époque, en 2016, le seuil, c'était fallait être en dessous de 1 sur 250 pour qu'on propose du coup des examens supplémentaires. Du coup, ce qui n'était pas mon cas. Et puis, comme ils tiennent compte du facteur risque au niveau de l'âge et que moi j'étais jeune, ils se sont dit non, c'est bon. Alors que maintenant, c'est en dessous de 1 sur 1000. Les seuils évoluent en fait chaque année, ça change, ça évolue.
D'accord. Alors, comment s'est passé le jour de l'accouchement?
Le jour de l'accouchement, l'accouchement s'est bien passé.
Ouais.
Ça s'est très bien passé. Bon, j'ai attendu pas mal de temps la péridurale quand même. Mais sinon, ça s'est bien passé. C'est vrai que j'avais un peu la boule au ventre parce que j'avais peur. Bon, c'était ma première fois. J'avais peur quand même de ce côté-là. Mais sinon, ça s'est très bien passé. J'ai accouché le soir par voix basse. J'ai senti toutes les contractions malgré la péridurale, donc je savais exactement quand est-ce qu'il fallait pousser. Enfin, franchement, là-dessus, ça s'est très bien passé. J'ai pas regretté. Bon, je suis passée par la case épisio, qui a aussi été foirée.
Oui.
Donc ça, j'ai dû faire plus tard une reprise d'épisio, repasser au bloc. Enfin bref, ce côté-là, par contre, c'était pas terrible. Mais je veux dire, en soi, l'accouchement, sinon, ça s'est plutôt bien passé. Hormis sur la fin, où c'est pour ça qu'on a dû me faire l'épisio, en fait. Parce que son cordon était ombilical était entouré, en fait, au niveau du cou. Et que là, fallait vraiment pousser pour le sortir. Parce que, ben, ouais, il commençait sinon à être bleu. Donc, c'est pour ça que, ouais, on m'a aidée. Parce qu'au bout d'un moment, ouais, je dirais que j'étais fatiguée. Et fallait qu'il sorte maintenant, quoi. Mais sinon, le soir, voilà, j'ai pas eu de spatule, etc., de ventouse. Non, ça s'est bien passé.
Et alors, la rencontre ? Avec ton petit bonhomme.
La rencontre, ça s'est très bien passé. Sur le coup, j'ai pas vu ses yeux en fait. Il était parce qu'il avait les yeux clos, donc j'ai pas tout de suite vu. Et puis après, ils l'ont vite emmené, pour l'habiller, etc. Et puis il a été tout de suite en fait en couveuse parce que il avait froid en fait et il est resté quand même en couveuse même quasiment tout le temps de mon séjour pendant les 3 jours en fait de maternité. Parce que ouais, il n'arrivait pas à réguler sa température, donc j'ai accouché en plein été, le 15 juillet 2016, et pour autant, il était sous couveuse tout le temps parce qu'il avait du mal à réguler son corps, ouais, sa température.
Et donc, t'as pu le voir un petit peu quand même ?
Oui, j'ai pu le voir hein, parce que du coup, il était sous couveuse, mais avec moi après dans la chambre. Donc, il n'y a pas eu de séparation et tout de ce côté-là. Ça s'est très bien passé. Donc, j'ai accouché en pleine nuit. Donc, c'est vrai que j'étais très fatiguée. Je suis rentrée dans ma chambre à 3h du matin. C'est vrai que j'étais vraiment très, très fatiguée. Donc, ils me l'ont gardé juste 2 heures et je l'ai récupéré du coup 2 heures après, le temps que je récupère parce que du coup, moi, j'avais eu ma journée. J'ai accouché en pleine nuit. J'avais pas dormi la nuit ensuite. Et donc oui, ils m'ont gardé simplement 2 heures et je suis retournée dans ma chambre avec lui et en fait j'ai eu la visite du pédiatre c'était à 10h le lendemain matin. Donc moi, mon conjoint était reparti forcément fatigué de toute la nuit, il était reparti à la maison et puis il était en chemin en fait pour revenir à la maternité et c'est en fait, je me dis, mais pourquoi en fait il m'attend pas ? Pourquoi le pédiatre n'attend pas qu'on soit tous les deux pour faire cette première visite-là ? Parce que quand même, elle est importante. Et puis, moi, c'est vrai qu'avec la fatigue et tout, j'ai pas forcément profité tout de suite vraiment de mon bébé. C'était vraiment, j'étais aux anges, Flo aussi. C'était, voilà, je me souviens, il m'avait envoyé des super textos hyper mignons quand il est rentré à la maison en disant, ouais, je suis le plus heureux des papas, t'as fait un super boulot, il est magnifique. Enfin voilà, c'était vraiment, c'était un bébé voulu. Et j'ai pas compris pourquoi le pédiatre n'a pas attendu. Donc je me dis, bon, allons-y. Donc j'envoie un message à Flo en disant, il y a le pédiatre qui arrive. Si je suis pas dans la chambre, c'est que je suis à la nurserie. Voilà. Et là, en fait, le pédiatre m'annonce, je pense que votre enfant est trisomique. On va faire un karyotype, des tests pour s'en assurer. Et il me sort ça comme ça. Genre, je suis toute seule. Il a mon dossier en main. Il sait que j'ai pas accouché toute seule, qu'il y a un papa. Et puis même si j'étais pas avec un homme, peu importe, on demande à ce que quelqu'un soit là, un proche, un parent, un ami, on n'annonce pas ça comme ça, en plein dans la nurserie, où on a à peine juste fait sortir les autres parents, et puis c'est tout, les auxiliaires de puériculture te regardent comme ça, toi t'es en pleurs, tu t'effondres, ton monde s'écroule, tu te dis quoi ? J'ai à peine de réaliser que je suis maman, que je viens d'accoucher, j'ai dormi 2 heures, et tu me dis ça comme ça, et tu t'en vas.
Et il est parti tout de suite.
Il est parti, en fait. Il m'a dit, on va faire des tests. Ah, je suis désolée, je dois y aller. Il m'a pas expliqué ce que c'était la trisomie 21, ni ce qu'il fallait faire, ce qu'il fallait mettre en place. Juste essayer de me rassurer, expliquer, en fait. Moi, dans ces moments-là, je pensais même pas à l'erreur. Est-ce qu'ils ont fait une erreur ? Comment ça se fait qu'ils l'ont pas vu ? On est quand même en 2016. C'est quoi ce délire ? Moi, je me suis dit, mais en fait... il me lâche sa bombe et puis il s'en va comme ça, tout seul. Et puis il n'est jamais revenu me voir en fait. C'est ça le pire, c'est qu'il n'est jamais revenu me voir. Il m'a lâché sa nouvelle et voilà.
Et donc là, tu te retrouves toute seule dans cette pièce où il vient de te lâcher cette bombe. Comment tu réagis? À quoi tu penses? Est-ce que ton chéri arrive rapidement après?
Bah du coup, j'ai mon bébé dans les bras et je le pose ensuite du coup dans le petit couffin. Et puis bah là, je pleure en fait. J'arrive même pas à penser à autre chose. J'arrive même pas à sortir de la pièce. Je vois que les auxiliaires de puériculture me regardent, mais elles ne me parlent pas. Elles disent rien. Je me dis, mais c'est quoi cet hôpital? Je me dis, mais où est-ce que j'ai accouché? Je me dis, c'est pas possible, je suis en plein cauchemar, je vais me réveiller, puis on va dire, non, tout va bien, c'était une erreur, on a pensé, mais au final, tout va bien. Enfin, on s'imagine plein de trucs, on s'est dit, mais c'est pas possible, ça m'arrive pas à moi. C'est ça, en fait, la première question que tu te poses, c'est, mais pourquoi moi? Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Moi, j'ai pas honte de le dire, moi, je me suis posé tout un tas de questions. Je me suis dit, mais c'est pas possible, j'ai fait toutes les échos, tout allait bien, enfin je comprenais pas en fait. Et donc là à ce moment je retourne du coup dans ma chambre où je croise les autres mamans qui sont toutes gaga avec leur enfant, le sourire jusqu'aux lèvres, enfin, et puis toi c'est malheureux, mais c'est vrai que bah, dans ces moments là t'es jalouse en fait, parce que tu te dis ben elles ont eu ce bonheur là et tout va bien, et tu dis toi à côté en fait ton monde s'effondre en fait. Donc c'est vrai qu'à ce moment là c'est très dur, et je me dis heureusement que j'avais une chambre individuelle, parce que sinon je me dis si j'avais dû supporter la famille d'une autre personne, que tout va bien, félicitations, et moi à côté pleurer toutes les larmes de mon corps pendant 3 jours, je me dis j'aurais pas supporté. Donc je reviens dans la chambre en attendant Flo. Il arrive pas tout de suite en fait, c'est ma meilleure amie qui arrive en premier dans la chambre et qui me trouve forcément en pleurs et qui me dit bah qu'est-ce qui se passe et tout, qu'est-ce qui va pas. Donc là je lui annonce en fait, je lui dis bah écoute, je lui dis Gabriel, je pense qu'il est trisomique en fait. Et elle me dit non, c'est pas vrai, c'est pas possible. Et je lui dis bah si. Quelques secondes après, Florian arrive. Et donc, bah, pareil, je lui répète, elle me dit, bon, bah, je vais vous laisser, elle s'en va, et puis, bah, pareil, c'est le coup de massue, parce que, bah, même moi, j'arrive pas à le dire, en fait. Bah, je lui dis, et, je tombe des nues, je pleure, j'arrive pas à parler. Donc, je lui annonce, et puis, heureusement, c'est vrai que, franchement, après coup, je me dis, j'ai vraiment eu de la chance, et que, d'une, il a pas mal pris, et puis, il s'est dit tout de suite, il m'a dit, c'est pas grave, on y arrivera. Et c'est vrai que cette phrase-là, bah oui, sur le coup, ça m'a fait beaucoup de bien, parce que même si j'en doutais pas, je savais qu'il n'allait pas fuir ou le rejeter, mais ça fait du bien. Franchement, ça fait vraiment du bien de se dire, bon, je suis pas toute seule, c'est bon.
Est-ce que vous regardez votre bébé, du coup, à ce moment-là, pour essayer de voir s'il y a des signes physiques?
À ce moment-là, bah, c'est vrai que moi, j'ai fait la première chose qui, soi-disant, il ne faut pas faire, mais que j'ai quand même faite, regarder sur Internet. J'ai regardé les caractéristiques, voilà, au niveau, bah, du coup, des petits yeux en amande. Ils n'ont pas, du coup, d'arête de nez. J'ai regardé, il parlait au niveau des plis des mains, mais ça, il n'y avait pas. Souvent, la langue qui sort, ça aussi. Alors que moi, il a beaucoup fait ça au début, mais après, pas du tout. Il n'avait jamais la langue qui sortait, mais bon, je me dis, il y avait quand même plusieurs choses. Et ensuite, pendant le séjour à la maternité, moi, j'avais une amie qui est éducatrice spécialisée et qui travaille, du coup, avec des adultes trisomiques tout au long de la journée, et qui m'a dit, bon, t'as pas besoin d'attendre le résultat, c'est positif. Elle me dit, oui, il y a le faciès. Elle dit, moi, je pense que oui. Faut attendre 3 semaines pour attendre les résultats définitifs pour le karyotype. Donc en 3 semaines, t'es comme ça à te dire bon, ça va être oui, ça va être non. Mais au fond de moi, de toute façon, je savais que c'était oui. Donc j'étais préparée à me dire oui, c'est positif. Et puis bah maintenant, il va falloir avancer pour lui, parce que je me dis bah lui, il avait rien demandé, Gabriel. Mais il est venu. Et puis voilà, je me dis s'il est là maintenant, bah c'est qu'il y a une raison. Et puis bah maintenant, faut assurer pour lui quoi.
Au bout de combien de temps tu te dis ça?
Bah très rapidement, parce que y a pas le choix en fait, faut rebondir. Dire, parce que malgré tout, on n'a pas le temps de réaliser qu'il y a déjà énormément de choses à mettre en place en fait, et ça non plus la maternité ne me l'avait pas dit. Moi, ce que j'ai fait, suite du coup au pédiatre qui n'est jamais revenu me voir, j'ai dit écoutez, parce que forcément il y a l'examen, il y a le premier examen à l'arrivée du bébé, puis il y a l'examen de sortie, j'ai dit écoutez, vous faites ce que vous voulez. J'ai dit au chef de service, j'ai dit mais moi, lui, je veux plus le voir. J'ai dit sinon, je sais pas ce que je lui fais, mais J'ai dit, je veux voir un autre pédiatre pour l'examen de sortie. Donc, j'ai eu un autre pédiatre. Alors, Titou, au début, je me dis, bon, ça va, lui, il m'explique un petit peu. Voilà, il nous explique avec Florian ce que c'est la trisomie 21, que voilà, on a lancé les examens pour faire le karyotype, que dès que ça arrive, il nous appelle, et puis voilà, on prendra un rendez-vous. Donc, j'ai dit, bon, ça va, il a l'air mieux. Moi, entre-temps, du coup, j'avais noté toutes mes questions sur un bout de papier. Je m'étais renseignée et tout. Et en fait, on est sorti de la maternité avec Gabriel. Mais au final, il ne nous a rien expliqué. Il ne nous a pas fait le papier 100% de la sécurité sociale qu'on avait besoin. Absolument pour démarrer, pas pour faire les frais, etc. Il ne nous avait pas expliqué qu'il fallait quand même d'ores et déjà trouver des professionnels de santé parce que c'est dur à trouver, que ça prend du temps, que la prise en charge, plus elle est précoce, mieux c'est pour son développement, pour tout ça. Lui, en fait, si je l'écoutais, c'est on a le temps, on verra, ça sera en fonction de son évolution, on a le temps. Il m'avait pas parlé qu'il fallait faire un dossier à la MDPH, donc la MDPH, c'est la maison départementale des personnes handicapées. Il faut créer un dossier pour qu'il soit reconnu en tant qu'handicapé. Ça, pareil, tu prends un bon coup de massue quand tu vois le dossier et que tu dis, bah ça y est, en fait, mon fils, il y a 3 jours, il faut déjà que je le déclare en tant qu'handicapé, que ça va prendre 9 mois d'attente pour les dossiers, les traitements, et que bah ouais, c'est un coup dur en fait. Tu te dis parce qu'en remplissant ça, tu attestes en fait qu'il est porteur de handicap, et c'est dur quand même au départ.
Oui, donc tu as dû faire tous les dossiers avant d'avoir les résultats définitifs.
J'ai attendu les résultats définitifs quand même, mais je m'y préparais parce que je savais que de toute façon, oui, enfin, c'était positif, quoi. Le seul bon conseil que le pédiatre m'a donné, c'était voilà, il faut vérifier, faire une échographie des reins, échographie du cœur, et pour vérifier s'il n'a pas de malformation cardiaque, parce que ce qui arrive dans 50% des cas des enfants porteurs de trisomie 21. Donc j'ai dit ok, ça rajoute ça en plus comme stress, j'ai super, j'ai le pauvre petit père, il démarre dans la vie déjà avec tout un tas de potentielles complications en fait, donc tu stresses pas mal. Et pour le cas de Gabriel, oui, ça s'est avéré un mois et demi plus tard. J'ai attendu un mois et demi pour avoir rendez-vous à Robert Debré pour me dire qu'au final, bah oui, votre enfant a 3 mois de vie, s'est opéré du cœur, ouais. Il a une malformation assez large, donc ouais, il va falloir opérer. Donc deuxième coup de massue, tu réalises, tu digères la nouvelle de la trisomie 21, que ça y est, tu dis boum, allez, on t'assomme encore un deuxième coup, va falloir qu'il se fasse opérer maintenant à 3 mois, à cœur ouvert. Tu dis ouais, ok.
Et alors toi, tu te retrouves dans deux univers d'un coup. En fait, tu deviens maman pour la première fois et tu entres dans le monde du handicap. Comment t'as géré
Alors, en fait, là où c'est le plus dur, c'est que c'est vrai que tu deviens maman, et donc du coup, c'est l'inconnu. C'est vrai que t'es jeune, même si c'était voulu et que je l'ai jamais regretté, hein. Mais je veux dire, tu t'attends pas à tout ça, en fait. Tu te dis, bon, bah voilà, je vais apprendre sur le tas, parce que de toute façon, il n'y a pas de mode d'emploi, hein. Tu sais, voilà, les choses de base qu'il faut, voilà, le bain à 37, les biberons toutes les 2-3 heures, enfin là, après, les choses classiques, ça, tout le monde le sait. Mais je veux dire, après, vraiment, la parentalité, tu la découvres vraiment que quand tu es dans le contexte, en fait, quand t'es vraiment dedans. Et le monde du handicap, bah, ça, t'y es pas préparé, mais encore moins. Et surtout que j'avais pas de point de repère, en fait, autour de moi, les bébés qu'il y avait, tout allait très bien, donc tu découvres un univers complètement inconnu et tu ne sais pas du tout, et tu apprends énormément de choses en fait en peu de temps. C'est clair que par rapport à ma deuxième grossesse, c'est vrai qu'après ça forge énormément, et tu te dis en fait j'ai appris énormément de choses en fait en 5 ans, tu dis, au niveau médical, parce qu'entre les kinés, les psychomotes, les orthophonistes, le côté médical, il a été très très souvent malade Gabriel, sa première année de vie, ça a été les hôpitaux très très souvent, les hospitalisations également, et t'apprends tout un jargon médical que tu ne connaissais pas avant en fait. Et après, ceci dit, c'est très très instructif, hein. Là-dessus, tu apprends énormément, parce que voilà, comme je disais, j'aime beaucoup poser des questions, savoir, connaître les termes techniques, etc. Parce que voilà, ça concerne mon enfant et j'ai envie de savoir le pourquoi du comment. Mais ouais, c'est assez déroutant au départ, parce que ça peut faire peur en fait, le monde du handicap, le monde médical, quand on ne connaît pas. Et moi, la première, hein, au départ, j'avais peur et je me suis dit, mon Dieu, mais où est-ce qu'on va, hein? Je sais pas où on va, mais on y va, il n'y a pas le choix.
Mais oui, en plus, on vous laisse, toi et ton chéri repartir à la maison avec avec votre bébé et avec tout à gérer sur son handicap, sans avoir encore les résultats en plus définitifs.
Ah oui, oui, du coup, on nous allait lâcher à la sortie de maternité. C'est là où, avec le recul, et puis même sur place, hein, je l'ai pensé, je me suis dit, mais comment on peut nous laisser sortir comme ça, sans filet de protection, sans dire, ben, vous inquiétez pas, je vous donne quelques adresses. L'Institut Jérôme Lejeune, ils sont spécialisés dans la trisomie 21, ils peuvent vous aiguiller. Enfin, voilà, toutes ces choses-là, en fait. Ben non, ça, heureusement, en fait, je l'ai su parce que voilà, j'ai ma tante qui est psychomotricienne, une amie qui l'est aussi, et que j'avais deux amis éduques spécialisés, quoi. Donc, heureusement qu'elles étaient là, en fait, et que Internet était mon ami aussi. Et que, voilà, il a fallu mettre les choses en place, en fait.
Et alors, t'as pu continuer à travailler, toi, derrière?
Alors, j'ai pas pu travailler, du coup, de base. C'était prévu que je reprenne après mon congé maternité. Sauf que là, du fait qu'il se faisait opérer à 3 mois et demi, du cœur, du coup, on m'a dit non. Par contre, il a pas le droit à la collectivité ni à la nounou, parce qu'il faut absolument pas qu'il tombe malade. Donc, non, vous le gardez chez vous. Donc, j'ai dit, bon, ok. Donc là, pareil, tu mets en place au niveau du coup de la CAF, en disant, bah voilà, t'as déclaré ton enfant porteur de handicap, que tu ne peux pas reprendre le travail parce qu'il va se faire opérer, etc. Enfin, t'attends, en fait, et après, il s'est opéré, et puis pareil, tout de suite derrière, il ne peut pas reprendre la collectivité parce que du coup, il y a la cicatrisation et tout, il y a la convalescence à l'hôpital et à la maison. Donc, c'est vrai, quand on y a un portage qui est différent, tout ça. Donc, moi, j'ai repris le travail à temps partiel à six mois, quand Gabriel avait 6 mois.
Comment t'as géré? Lui, il allait à la crèche après?
À la base, je n'avais pas de place en crèche. J'avais une place en crèche familiale qui, au final, suite à l'annonce du handicap, m'a été retirée. J'ai pas trop compris pourquoi, mais bon, apparemment, c'était plus possible. J'ai fait bon, d'accord. Mais au lieu de ça, ils m'ont trouvé une place en crèche collective. Après, les médecins étaient pas forcément trop pour, parce que faut savoir que Gabriel, comme beaucoup d'enfants porteurs de trisomie 21, ils ont des défenses immunitaires plus faibles que la moyenne, donc ils tombent plus souvent malades. Et moi, c'est vrai que ça s'est confirmé avec Gabriel, parce que il a fait. Mais bon, moi aussi, j'avais besoin de reprendre une activité professionnelle et je voulais pas qu'il soit en nounou. J'avais vraiment besoin qu'il soit vraiment stimulé, en fait, qu'il y ait plein d'enfants autour. Je me dis comme ça va le stimuler à fond pour qu'il évolue. Je me dis pour son évolution, c'est ce qu'il y a le mieux, en fait, même si c'est vrai que par rapport sur le plan médical, ils étaient pas forcément trop pour. Ils m'ont dit voilà, par rapport à sa cicatrisation, tout ça, ils m'ont dit là maintenant c'est bon. J'ai attendu le feu vert, hein, bien sûr, j'allais pas le mettre en danger. J'ai attendu le feu vert des médecins et puis on dit bon, voilà, c'est bon, de ce côté-là, c'est ok. Donc j'ai tenté le coup, et c'est vrai que j'avais repris le travail en, du coup, mi-janvier 2017, et j'ai arrêté 2 mois après, parce que il se faisait hospitaliser, parce que pneumopathie, infection des poumons, parce que il faisait tellement des bronchiolites souvent que c'était infection des poumons, donc sous oxygène, etc. Pendant une semaine, j'ai dit bon, ça me fout un peu mal, mais bon, j'ai pas le choix. Donc, mais le peu de jours enfant malade que j'ai eu, je les avais déjà utilisés. Donc c'est vrai que bon, j'avais retravaillé, mais je travaillais à temps partiel. J'étais à 60, un peu plus de 60%.
Et t'as des aides de l'État dans ces cas-là financiers?
Alors oui, il y a des aides, mais ça compense pas totalement ta perte financière. Parce qu'en fait, t'as deux choix. C'est soit t'as la JPP, donc ça c'est par la CAF, soit du coup t'as qui est reconnue par la MDPH, soit du coup t'as l'AEH. Mais tout dépend du coup de la compensation, parce que l'AEH, ça te sert pour payer tes frais, par exemple, de psychomotricité qui ne sont pas pris en charge par la sécurité sociale. Donc toi, t'avances les frais et hop, ensuite du coup tu reçois par la CAF, mais c'est par le biais de la MDPH en fait qui t'octroie justement l'allocation pour ça, en fait. Mais c'est un calcul, en fait, c'est un calcul à faire, en fait. C'est un peu compliqué, et c'est vrai qu'au départ, quand tu démarres, tu dis mais mon Dieu, j'ai le choix entre la peste ou le choléra, quoi. Parce que ça fait un peu ça, parce que tu te dis c'est vraiment vraiment au cas par cas, en fait. Il y a des personnes qui peuvent avoir un complément qui est assez important, du coup, qui peut leur permettre de payer et les frais médicaux qui ne sont pas pris en charge, et ça te permet également d'avoir une compensation financière par rapport à ton travail, du coup, que tu as réduit. Mais il y a d'autres familles où, ce qui était moi au départ mon cas, où j'avais que le complément 2, et ça me permet uniquement de payer les séances de psychomotricité, en fait. Et ça me faisait pas de compensation de perte de salaire. Mmh. Mais tu peux choisir soit l'un, soit l'autre. Tu peux pas cumuler. Donc c'est un calcul à faire, en fait. C'est vraiment au cas par cas, quoi. Donc c'est un peu compliqué, surtout quand c'est ta première fois. C'est pour ça que je dis, dans le sens, c'est un peu la veste ou le choléra, parce que tu sais pas, et tu es là, tu dis, je choisis quoi, option A, option B.
Et il y a personne qui t'aide pour ça?
Pour ça, non, c'est vrai que moi j'ai monté mon dossier MDPH toute seule, le dossier à la CAF, parce qu'au départ, du coup, je me suis mis en AJPP parce que mon dossier MDPH a attendu 9 mois avant qu'il soit traité. Donc oui, après j'avais eu l'arriéré, etc. Au niveau financier, mais bon, au départ, non, t'as rien. Donc avant qu'au niveau de la CAF ça se traite, bah, pendant 2 mois, tu fais vraiment ceinture, quoi. Heureusement que ma famille était là à l'époque, pour me faire des courses de temps en temps, etc., quoi, parce que bon, quand tu te retrouves qu'avec plus qu'un salaire, c'est un peu tendu quand même.
Et justement, alors, l'entourage, comment ça s'est passé avec ton entourage sur l'annonce de la trisomie de Gabriel?
Alors, mon entourage, ça s'est bien passé, parce qu'ils ont vraiment été présents, on a vraiment été soudés, même si je sais que ça a été dur aussi pour eux d'encaisser le choc. Mais vraiment, ils ont été super au top. Ma belle famille et tout, dans l'ensemble, ça a été, même s'il y a eu des incompréhensions. De la part de ma belle-sœur, ça a été très compliqué pour moi. Il y a eu quelques faux pas qui ont été assez blessants et que j'ai pas compris, et ça a été long pour moi à digérer et à accepter. Mais alors d'aujourd'hui, ça va mieux. Et concernant les amis, de mon côté, ça a été. Et du côté de Flo, on a fait le tri sur certains, et sur d'autres, on a gardé très bon contact. Donc ça a été mitigé, on va dire.
Mmh. Et toi, au niveau de la culpabilité, parce que j'imagine que ça a été des points qui ont été soulevés, justement, peut-être par les proches qui ont été blessants. Comment toi, t'as vécu
Je sais que Flo, lui, en tout cas, ne m'en a pas du tout voulu, parce qu'il savait très bien que c'était pas de ma faute, quoi, ni de la sienne, ni de la mienne, d'ailleurs. Mmh. Mais c'est vrai que moi aussi, j'ai culpabilisé, parce que je me dis, mais pourquoi ça nous arrive à nous? Enfin, qu'est-ce qu'on a fait? Et puis, j'ai même moi, enfin, j'ai pendant toute ma grossesse, enfin, voilà, d'une, je fume pas, mais je veux dire, j'ai pas bu d'alcool, j'ai pas fumé, j'ai rien fait, quoi. J'étais pas vaccinée, n'importe quoi. J'étais pas immunisée contre la toxoplasmose, mais pareil, je faisais ultra attention à tout ce que je mangeais. Enfin, vraiment, j'étais la femme enceinte modèle, quoi. Je veux dire, j'ai bien tout suivi, tout ce qu'il fallait faire, et je me dis, mais je comprends pas, en fait. Et j'ai dit, où est-ce qu'il y a eu un loupé? Je suis dans les examens, je sais pas. Donc pareil, tu regardes ton dossier, en fait, et tu dis, mais où est-ce qu'elle a loupé le truc? Et c'est là, à ce moment-là, que tu te remémores, ah, il a un petit fémur, il sera pas très grand. Alors ok, moi je suis pas grande, mais je suis pas toute petite non plus, mon conjoint non plus. Donc je me dis, ouais, quand même, c'est bizarre. Et je me dis, mais elle a pas percuté, quoi. Elle a pas percuté, parce que moi j'avais vu ma gynéco nous avait reçus à la maternité, pour dire, pour trop nous rien dire, en fait, hein, mais bon, c'est vrai que c'était assez. Elle savait pas trop quoi dire, en fait. C'est pour elle, elle avait pas forcément fait d'erreur ou quoi que ce soit, mais que, en gros, ça arrive, quoi. Mais plus tard, je lui avais envoyé un email quand Gabriel avait 17 mois. Un roman, voilà, j'avais besoin, en fait, de passer par cette étape-là pour. Même si à ce moment-là, j'avais largement digéré la nouvelle, hein, bien sûr, mais voilà, pour vous dire qu'aujourd'hui, je ne regrette pas. Mon fils m'a vraiment donné une leçon de vie incroyable, et j'ai appris énormément de choses grâce à lui, et que voilà, c'est pas parce qu'il est handicapé qu'il n'est pas heureux et que nous, on n'est pas heureux, bien au contraire. Mais que voilà, il y avait certaines choses, je me dis, où il faudrait qu'elle fasse attention, en fait, parce que, je ne sais pas, de dire ces petits détails-là, sans pour autant prêter plus attention sous prétexte que je suis jeune, donc ça ne peut pas arriver. Ben non, en fait, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Le facteur de l'âge, non, faut plus le prendre en compte parce que c'est pas vrai. Ça arrive à plein de jeunes mamans, de plus en plus d'ailleurs. Donc, je comprends pas encore que dans leur test, le fameux tri-test, ils prennent en compte ce facteur-là alors que ça ne devrait pas. Alors, moi, là, par contre, où j'ai beaucoup culpabilisé, c'est par rapport à Flo, parce que faut savoir que mon conjoint a perdu ses parents très jeunes, et donc je me suis dit, en plus, il n'aura pas ses grands-parents paternels. Je me dis donc déjà, lui, devenir papa sans avoir ses parents, ça ne doit pas être évident, même s'il n'en avait pas forcément parlé, tout ça, mais je me suis dit, franchement, ça doit être pas évident. J'ai eu en plus là, je me dis, on apprend qu'au final, notre enfant est porteur de handicap, et je me dis, mais il n'a pas mérité ça, quoi. Je me dis, le pauvre, il a déjà eu tellement de choses à vivre, et je me dis, même moi, du coup, je lui fais vivre ça, en fait, avec son enfant. Sur le coup, j'ai beaucoup culpabilisé par rapport à ça, en fait. Et me dire que, enfin, je me dis, même lui, quoi, j'ai le pauvre, il mérite pas ça, quoi. Je sais qu'il a beaucoup pleuré, pas forcément devant moi, mais ouais, ça a été très dur pour lui aussi.
Et comment vous souteniez l'un et l'autre? J'imagine qu'il y en a un qui flanchait et l'autre était plus fort à ce moment-là.
En fait, moi, j'ai beaucoup pleuré à la maternité, mais du coup, j'étais toute seule parce que Flo n'était pas autorisée à dormir sur place. Donc ouais, j'ai beaucoup pleuré toute seule la journée, la nuit, le photographe qui venait. Vous voulez prendre une photo? Je dis, mais tu vois pas que je suis en train de pleurer, que je suis bouffie, en fait. Ne viens pas me voir, je ne veux pas de photo, en fait. Mais non, il insiste, tu sais, jusqu'au bout. Mais non, ça c'était un peu difficile aussi à vivre. Les photographes devraient faire attention à ça. Un minimum d'observation, ça peut être bien. Mais en fait, c'est... Ouais, on s'effondrait pas en même temps, en fait. Moi, après, une fois le retour à la maison, ça m'a fait vraiment du bien parce que j'avais besoin de rentrer à la maison pour me dire, voilà, ça y est, on commence notre vie à trois. Et à partir du moment où on est rentré à la maison, quand même, ça allait mieux, même si évidemment, voilà, c'était quand même difficile, mais ça allait déjà beaucoup mieux pour moi parce que je me dis, ça y est, je suis chez moi, je prends mes marques avec moi, avec mon fils. Ça va aller mieux, en fait. Je vais pouvoir me mettre dans mon rôle de maman en laissant de côté ce côté médical, en fait. Et voilà, Flo a repris le travail après ses 11 jours de paternité. Donc, je pense que ça aussi, ça lui a fait du bien de pouvoir aussi, voilà, sortir un peu de tout ça. Donc, je pense qu'à partir de ce moment-là, ça a été mieux quand même. Après, on en parlait, hein, non, ça allait quand même mieux. Mais on s'effondrait jamais en même temps.
Et alors, est-ce que tu as rencontré d'autres mamans qui étaient dans la même situation que toi, qui vivaient la trisomie de leur enfant?
Alors, c'est Flo qui a contacté, en fait, via les réseaux sociaux. En fait, il avait vu, il recherchait des pages. En fait, on cherchait sur Facebook au hasard. On tapait, voilà, trisomie 21, etc. Et puis, on est tombé sur la famille de Laura, donc Fred et Franck. Et donc, j'ai dit, oh, bah, vas-y, tout, contacte-les. Donc il les a contactés par mail, en fait, et on les a rencontrés à 2 mois et demi, quand Gabriel avait 2 mois et demi, en fait. Et franchement, ça nous a fait énormément de bien. Moi, en parallèle, j'avais discuté, on s'était jamais rencontrés parce que c'était l'été, qu'elle était en une autre famille était en vacances. Mais je discutais avec une autre famille qui était parent d'un petit garçon, Axel. Et donc on avait beaucoup échangé par mail, mais c'est vrai qu'au final, on s'est jamais rencontrés, alors que les parents de Laura on s'est rencontrés quand Gabriel avait 2 mois et demi, et ça nous a fait énormément de bien parce que même si la famille est présente, même si les amis sont présents, ils comprennent pas ce qu'on vit au quotidien, en fait, pas à 100% parce qu'ils le vivent pas autant sur le point de vue psychologique que physique, que tout, en fait. Eux sont passés par cette étape là à l'époque. Laura avait 3 ans, et franchement, à l'heure d'aujourd'hui, c'est toujours des amis proches, et donc on se voit de temps en temps, parce que pas forcément régulièrement, parce que voilà, on a tous les deux des emplois du temps assez assez chargés, mais en tout cas, oui, on est toujours en contact, et franchement, ça nous a fait énormément de bien de les rencontrer, quoi. Ça nous a vraiment soulagés, et de se dire voilà, on voyait Laura qui avait super bien évolué, on s'est dit, ah ouais, non, franchement, ça rassure. On se dit, c'est pas parce que il est trisomique que il pourra pas marcher, qu'il pourra pas parler, qu'il pourra pas être heureux, être content, avoir des activités, avoir des copains, des copines. Non, franchement, ça nous avait vraiment rassurés, parce qu'on voyait sur ses réseaux sociaux qu'il a partagé, en fait, des petits moments de vie, en fait, de ce qu'elle faisait, et puis on se dit, ah ouais, Parce que ça, comme c'est l'inconnu, ben, on ne sait pas, en fait, et on s'imagine toujours le pire, alors qu'en fait, on se dit, bah, oui, ok, ça sera, il fera les choses plus lentement que les autres, mais il finira par y arriver, que ça... Bien sûr, il faut de l'accompagnement, il faut le côté médical, faut le côté médical, la kiné, la psychomote, l'orthophoniste, ils en ont besoin pour avancer, chose que les enfants lambda n'ont pas besoin, mais qu'à côté de ça, ils vont quand même avancer, ils vont quand même progresser, et que oui, c'est pas parce qu'ils sont handicapés qu'ils pourront pas être heureux, quoi.
Et donc, Gabriel, là, il va avoir 5 ans, donc entrer en grande section de maternelle.
Alors Gabriel va avoir 5 ans au mois de juillet et là j'aimerais bien qu'il redouble pour le coup sa moyenne section parce que c'est vrai qu'il a commencé sa scolarité en petite section à 3 ans. J'ai pas voulu qu'il fasse une année supplémentaire en crèche parce que je sais qu'il y a cette option là mais moi je voulais pas qu'il accumule trop de retard. Il a marché à l'âge de 3 ans donc il a commencé sa petite section mais après ben milieu d'année Covid, premier confinement. Donc déjà, il a loupé pas mal, comme les autres enfants. Mais je veux dire, de base, Gabriel était scolarisé qu'à mi-temps, que le matin.
D'accord.
Donc déjà, il avait déjà qu'un temps partiel. Plus, il y a eu le Covid qui s'est ajouté. Après, on a dû le faire passer obligatoirement. On a déménagé dans l'Oise. Et puis, en moyenne section, du coup, ici. Et puis bah là, pareil, hein, il y a eu un peu quand même des pseudo-confinements. L'école un peu qui a... Il y a eu moins d'écoles quand même. Il y a eu un gros chamboulement parce que bah ouais, on avait déménagé. On a tout changé du coup. L'école, les professionnels de santé, tout. On a changé de maison. Enfin, on a vraiment tout changé. Donc, il y a eu beaucoup de chamboulements. Il y a eu sa petite sœur aussi qui est arrivée juste 15 jours avant le tout premier confinement. Donc, il y a eu quand même année gros, vraiment chamboulement. Et là, c'est vrai que je me dis si je le fais rentrer en grande section, j'ai peur que... ça le fasse encore plus plonger. Donc je ne sais pas à 100% si pour le moment ça va être faisable ou pas. Justement, j'ai la réunion éducative courant ce mois-ci à l'école pour savoir du coup comment on s'organise pour la rentrée scolaire. Mais j'aimerais bien plutôt qu'il retape son année étant donné que pour l'instant, il ne parle toujours pas, il n'est pas verbal, il s'exprime avec la langue des signes. Donc je me dis le temps aussi de que ça se débloque de ce côté-là, parce que ouais, il a un retard au niveau du langage, parce que pareil, il s'est fait appareiller, il a eu des prothèses auditives, on s'est rendu compte tardivement que ouais, il y avait des soucis d'audition, il s'est fait opérer aussi pour ça 2 fois. Enfin, il y a eu pas mal de petits contretemps au niveau médical qui ont fait que ça a encore plus ralenti en fait la progression de ce côté-là. Et du coup, je me dis que c'est pas plus mal si il refait une moyenne section, ça serait bien.
Et tu disais qu'il était à temps partiel quand il va à l'école. Pourquoi ?
Maintenant, il n'est plus à temps partiel. Il est à 20 heures par semaine. Mais avant, ouais, il avait que 12 heures d'école par semaine. Donc ça faisait même pas une matinée complète parce que en fait, il n'avait que 12 heures d'AVS. Donc l'AVS est une auxiliaire de vie scolaire. Maintenant, on dit AESH. Et du coup, l'école, en fait, n'était pas du tout inclusive. Et donc, pour eux, c'était, si t'as 12 heures d'AVS, tu vas 12 heures à l'école, tu vas pas plus. Voilà. Malheureusement, c'est ça, en fait, avec le recul, ce qui est difficile, c'est pas que mon fils soit porteur d'un handicap, qu'il soit porteur de trisomie 21. C'est pas ça qui est difficile au quotidien. Vraiment pas. Ce qui est vraiment très, très dur à gérer. Et, autant psychologiquement que moralement, psychiquement, enfin tout ce qu'on veut, c'est ce qui est très dur, c'est qu'en fait en France on n'est pas inclusif du tout envers les personnes qui sont handicapées. Ça commence à venir, mais c'est très très lent et dans le milieu scolaire c'est une horreur. Clairement c'est une horreur parce que c'est là qu'en fait tu vois que la bataille arrive. La bataille, elle arrive quand l'enfant est scolarisé. Que là, faut avoir de l'énergie, qu'il faut avoir du mordant, qu'il faut avoir du répondant, qu'il faut pas se laisser faire, qu'il faut montrer que, même moi, je vois au niveau de... Je sais que c'est difficile pour beaucoup de parents, mais je veux dire, moi, j'ai l'impression que du fait que je sois jeune, peut-être des fois, ils se permettent encore plus de choses, en fait, à se dire que, elle y connaît rien, la vie, elle est jeune, on va la dégager un petit peu, on va lui faire 2-3 réflexions, et puis c'est bon, elle va lâcher l'affaire. Sauf que non, sont tombées sur le mauvais cheval. Je ne suis absolument pas comme ça. Au contraire, ma famille me dit plutôt que je suis un pitbull. Et ouais, pour le coup, je porte bien mon surnom. Et je me dis heureusement que j'ai un caractère comme ça parce que franchement, des fois, c'est pas facile. Et que oui, parfois, ça m'arrive que je pleure parce que je me dis mais dans quel monde on vit en fait ? C'est tellement difficile de se dire que bah faut se battre pour que notre enfant puisse aller à l'école à temps plein. C'est aberrant, donc on est obligé quand on monte nos dossiers MDPH de dénigrer complètement notre enfant pour qu'on ait un maximum d'heures d'AVS en priant pour qu'ils arrivent à en trouver une pour notre enfant et qu'elle soit vraiment individualisée, c'est-à-dire que ce soit une personne qui soit là spécifiquement pour notre enfant et pas mutualisée, donc c'est-à-dire qu'il soit divisé pour deux enfants, donc au final tu te retrouves avec moins d'heures de scolarité. Donc ouais, non, c'est compliqué. Il y a des écoles qui sont inclusives parce que les directrices sont, ou les directeurs sont conciliants et voilà, ils sont bienveillants et ils acceptent, mais il y en a d'autres où c'est pas le cas.
Parce que c'est le directeur ou la directrice qui décide ce genre de choses ?
Oui. Alors en fait, c'est le directeur ou la directrice qui va déterminer en fait s'il accepte que l'enfant soit pris en charge par l'école à temps plein ou pas. En fait, si l'enfant a que 12 heures d'AVS et qu'il dit bon bah d'accord, moi j'accepte d'accepter l'enfant à temps plein malgré que sur la moitié du temps il n'ait pas d'AVS, étant donné que ça se passe plutôt bien, voilà, ils font cet effort là, mais pas toujours. Et c'est rare. Moi je sais que bah du coup la première année de Gabriel c'était pas le cas.
Donc toi tu t'occupes à temps complet maintenant de Gabriel, hormis le temps où il va à l'école ?
Du coup, moi, j'avais repris le travail assez 6 mois, et en fait, j'ai arrêté 6 mois avant qu'il rentre à l'école. Et parce que oui, de toute façon, j'aurais pas pu continuer à travailler parce que il était scolarisé que le matin. Moi, je travaillais sur Paris et je mettais 1h30 pour aller au travail en transport. Donc en fait, en gros, je serais restée sur mon poste 1h et quelques pour repartir. Ce qui était surtout que c'était un poste où j'étais seule et donc après, je ne pouvais pas partir en laissant personne à ma place. Donc non, clairement, c'était pas faisable. Et donc ouais, non, c'était un peu compliqué de ce côté-là. Après, j'ai dit, bon, la première année, je me suis pas forcément battue pour qu'il soit vraiment à temps plein, parce que je me dis, bon, c'est que la petite section, il fait la sieste l'après-midi, après, 1 heure après, l'école est terminée, je dis, bon, c'est pas trop trop grave. Mais par contre, en moyenne section, ça me tenait vraiment à cœur qu'il puisse y être à temps plein, hormis les fois où j'ai des rendez-vous, parce que du coup, il n'est pas à l'école à temps plein, parce que j'ai aussi les rendez-vous médicaux et que malheureusement, je peux pas tous les caler en dehors des heures scolaires. Mais voilà, j'essaye de m'organiser au mieux entre son emploi du temps à lui, scolaire, plus aussi l'emploi du temps des professionnels, parce que forcément, eux aussi sont assez surbookés et que t'essayes de faire au mieux entre ce qu'ils peuvent te proposer, enfin les disponibilités de chacun, et ça aussi c'est un casse-tête chinois.
Et comment ça se passe vis-à-vis de la société, du regard des autres ?
Honnêtement, le regard des autres, ça m'a jamais vraiment importé. Même après l'accouchement, non. Je me dis de toute façon, il est comme ça et puis voilà. Là où j'ai eu un peu de mal, c'est quand au départ il a eu ses lunettes, mais bon, ça va, ça m'a pas trop dérangé. Il a eu ses lunettes, il avait 1 an et demi. Mais c'est quand il a eu ses prothèses auditives, c'est vrai que bon. Là, je me suis dit lunettes, plus prothèses, plus prothèses auditives, plus du coup il a pas un faciès très très marqué au niveau de la trisomie 21, mais bon, un petit peu quand même. Et c'est vrai que je me dis bon, ça plus ça plus ça. Je me dis le pauvre, si là t'es pas catalogué. Bon, c'est vrai que moi je suis sa maman, donc je vois maintenant, je le vois même plus tout ce côté-là, hein, mais sur le coup, quand il a eu ses prothèses, ouais, je me suis un peu souciée du regard des autres. Je me suis dit, oh, bon, ça a pas duré longtemps. Hein. Au bout d'une semaine, c'est bon, je m'en foutais. Hein. Je me dis, si t'entends et que tout va bien, que maintenant tu vas pouvoir rattraper ton retard, assimiler plein de choses et puis vivre pleinement ta vie. Et je me dis, je m'en fous en fait. Mais j'ai eu ce, ouais, c'est vrai que cette petite appréhension-là au début du regard. regard des autres quand il a eu ses prothèses auditives. Chose que j'avais pas du tout eu pour au départ et puis maintenant je m'en fous complet quoi. Les gens, j'ai jamais eu de réflexion dans la rue ou quoi que ce soit. Jamais. J'ai toujours eu des regards bien, enfin, pas forcément malveillants ou quoi que ce soit. Après, si j'en ai, je n'hésiterai pas à les envoyer balader, clairement. Je ne vais pas m'écraser. Non, certainement pas. Mais jusque-là, j'en ai pas eu, donc tout va bien.
Et alors, à quel moment vous avez décidé de faire un petit deuxième et donc une petite deuxième ? Est-ce que ça a été purement réfléchi, longuement réfléchi ?
Alors avec Flo, on a toujours voulu deux enfants, pas plus. Enfin, même avant le handicap, hein, c'est vrai que même avant d'avoir des enfants tout court, je me suis dit deux enfants, c'est bien. Moi, je suis fille unique, donc je voulais avoir deux enfants, connaître la fratrie, en fait, tout simplement. Je voulais connaître ce côté-là. Et on s'était toujours dit, déjà même avant de connaître le handicap, moi, je m'étais toujours dit, je veux au moins attendre 3 ans, parce que je voulais vraiment profiter, en fait, avec l'aîné, que voilà, soit vraiment qu'il profite à fond, qu'il ait ses parents que pour lui, qu'il grandisse, qu'il ait une certaine autonomie, tout ça, avant d'avoir un deuxième. Le handicap n'a fait au final que renforcer cette idée-là. Et sachant que quand j'ai accouché, j'ai dit je ne veux plus d'enfants. J'avais tellement pris peur en fait que j'ai dit mais je veux plus d'enfants en fait. J'ai dit c'est pour connaître toute cette douleur, toute cette souffrance, j'en veux pas. Je ne veux plus avoir d'enfants sur le coup. Flo n'avait pas du tout réagi comme ça. Moi oui. Après coup, après avoir digéré le choc de l'annonce, non. Après je voulais avoir un deuxième enfant. Mais sur le coup, je dis non, j'en veux plus. Et donc on voulait attendre que Gabriel marche en fait, qu'il ait vraiment acquis la marche pour se lancer dans un deuxième. Donc c'est ce qu'on a fait. Il a vraiment vraiment fait marcher à fond à ses 3 ans. Ses premiers petits pas c'était à 2 ans et demi, mais vraiment oui là. Et il s'est vraiment lancé, c'était à 3 ans. Donc, en juin, à l'anniversaire de Flo, on s'est dit, bon, bah, ça y est, un mois avant qu'il ait 3 ans, on s'est dit, bon, bah, on va tenter le deuxième. Et puis, bah, en fait, ça a pris tout de suite, le jour même. Premier coup, ça a fonctionné. Et puis, bah, ouais, du coup, un mois et demi après, bah, je vois, test positif. Donc,
Est-ce que tu avais des appréhensions pour cette deuxième grossesse?
Alors ma deuxième grossesse, j'ai pas réussi à la vivre sereinement. Malheureusement, j'ai pas réussi, sachant que du coup, j'ai été plus suivie au départ. J'ai fait une biopsie du trophoblaste. J'ai refusé de faire l'examen du tri-test classique. J'ai dit non, ça franchement, votre examen bidon valable. Enfin, fiable à 70%, parce que ça, ils nous le disent pas, mais c'est fiable qu'à 70%. J'ai dit non, franchement, j'en veux pas. Donc, ça, j'ai refusé. Ils m'ont proposé la DPNI, la prise de sang qui est fiable à 99%. J'ai dit non, j'en veux pas non plus. Elle est pas fiable non plus. J'ai dit, je n'en veux pas. J'ai voulu faire, du coup, la biopsie du trophoblaste. Donc, c'est le même principe que la myosynthèse. Sauf que là, on prélève du trophoblaste, du coup, à 3 mois. Donc, faut faire vraiment, faut respecter le calendrier. Donc, c'est à 3 mois de grossesse. Donc, j'ai fait la première écho à Necker. Et ensuite, du coup, j'ai fait la biopsie dans la foulée. J'avais vraiment peur parce que oui, c'est vrai qu'il y a un risque qui est soi-disant plus élevé que la myosynthèse qu'on fait à 5 mois ou 5 mois et demi de grossesse, je crois. Mais moi, je ne me voyais pas attendre tout ce temps-là. Et honnêtement, Necker m'a rassurée. Ils m'ont dit non, en fait, il n'y a pas de risque de fausse couche plus important. Ils m'ont dit ça, c'est faux. Ils m'ont dit nous, on a un risque de fausse couche qui est pareil, c'est 0,2%, que ce soit pour l'un ou pour l'autre. Donc non, j'ai pas. Je me suis dit bon, bah, allons-y, je fais ça. Et je leur ai dit bah, voilà, vous regardez pour tout, pas simplement pour la trisomie 21. Donc, j'ai eu beaucoup peur. Sachant qu'en plus, j'avais attendu énormément de temps dans la salle d'attente, mais vraiment, j'avais attendu genre 3 heures. J'ai dit, mais ils font quoi? Parce que du coup, je leur avais donné mon dossier. J'ai dit, il y a un truc qui va pas et tout, parce qu'on avait eu des résultats de prise de sang qui étaient pas bonnes. Et on a su en fait que j'avais contracté le CMV, donc le cytomégalovirus, mais que je ne savais pas quand exactement, si c'était pendant du coup le début de ma grossesse ou si c'était avant ma grossesse. Et ça joue énormément en fait sur du coup le bébé en fait. Donc là-dessus j'avais peur, je me suis dit mais il m'arrive encore un truc quoi. J'ai dit mais j'ai la poisse moi, c'est pas possible, faut plus que je fasse d'enfant quoi. Au départ je me dis c'est pas possible. Et donc j'ai eu vraiment peur et au final ça s'est bien passé. J'avais contracté le virus avant, donc du coup mon bébé n'avait pas de risque euh, de, d'avoir contracté le virus, mais il fallait quand même que je sois prudente et bien me laver les mains tout le temps, etc. Voilà, avoir vraiment une hygiène très stricte de ce côté-là, parce que comme ça fait partie du virus de l'herpès, ben c'est un peu, ça peut revenir en fait. C'est pas, j'étais pas immunisée. Enfin, j'étais immunisée encore du coup, mais pas, enfin comme c'est, voilà, ça fait partie des virus de l'herpès, ça peut revenir. Donc ouais, ça a été assez compliqué. Et même si au final j'ai eu les résultats de la biopsie en 10 jours et qu'ils m'ont appelé, ils m'ont dit que voilà, c'était une primo-infection, que tout allait bien, etc. Donc j'ai été super soulagée, ça m'a fait du bien, mais j'avais toujours cette part où je me dis, bah notamment quand on a le CMV, notre enfant peut être sourd. Je me suis dit, bon, j'ai l'avantage, la langue des signes, c'est pas l'inconnu pour moi avec mon fils, mais bon, je me suis dit, j'espère pas, parce que ça, après, c'est des choses qu'on ne peut pas détecter, la surdité pendant la grossesse, donc j'avais un peu peur. Et bon, même si on m'avait dit que tout allait bien, c'est ce qu'on m'avait dit aussi pour ma première grossesse, tout va bien, et au final, voilà, c'était pas le cas. Il y a eu la malformation cardiaque, CIV large plus mini CIA pour Gabriel, qui n'avait pas vu, alors que c'était quand même une malformation importante, quoi, vu qu'elle était large, et que voilà, la gynéco l'avait pas vu, et je me suis dit, bon, quand même, même si là, oui, mon début de grossesse, j'avais été suivie à Necker, et qu'après, j'avais changé de maternité, j'avais tout changé, bien évidemment, pour ma deuxième grossesse. Mais voilà, c'est vrai que j'avais toujours cette petite appréhension où je me suis dit, bah, t'attaches pas trop parce que on sait jamais. C'est dur, mais ouais, j'ai voulu me protéger, même si au fond, c'est impossible. Bien sûr que j'aimais ma fille, j'aimais mon bébé, mais que c'était dur, en fait. Parce que ouais, on a l'appréhension parce qu'on a connu, voilà, des choses avant. J'ai eu mon passé, mon vécu par rapport à Gabriel, et que forcément, bah, j'ai pas réussi à être sereine à 100%. Je l'étais, j'étais mieux quand même depuis les résultats, mais voilà, j'avais toujours cette part de doute où je me dis, tant que je l'aurai pas sur moi, dans mes bras, et qu'on me dira pas que tout va bien, j'aurai cette petite peur.
Et alors, la rencontre, comment ça s'est passé avec ta fille?
Bah, la rencontre avec ma fille, ça s'est très très bien passé. J'ai eu un accouchement bah, bien aussi, franchement, nickel. Ça s'est vraiment bien passé. J'avais pas du tout l'appréhension, en fait. Je savais que voilà, j'ai vraiment attendu au max avant de me déplacer à la maternité. J'étais déjà ouverte à 4. Ils m'ont dit, ah oui, vous avez bien entendu. Je dis ouais, je voulais pas y aller pour rien. Donc j'ai accouché en pleine nuit aussi. Je fais des bébés de la nuit, moi. Mais non, franchement, ça s'est bien passé. Puis j'avais pas d'appréhension. Je me suis dit, c'est bon. Voilà, je sais ce que c'est un accouchement. J'avais pas du tout peur ou quoi que ce soit. Et bizarrement, le jour de l'accouchement, j'étais pas stressée par rapport à la santé de mon bébé. En fait, je me suis pas dit, oh là là, s'il arrive quelque chose. J'étais tellement concentrée sur le moment précis, en fait, que j'avais pas peur de tout ça, en fait. Paradoxalement, j'avais pas du tout peur en me disant, ça y est, c'est le moment. Est-ce qu'on va m'apprendre quelque chose? Ben non, finalement. J'ai pas eu cette crainte là, ça s'est bien passé. Et bon, j'ai juste eu la péridurale au bon, c'est au bout de la troisième fois qu'ils ont réussi à me la poser. Donc ouais, j'ai attendu un peu, je crois 35 minutes avant qu'enfin c'est pu fonctionner. Mais sinon, ouais, ça s'est bien passé. L'équipe a été au top, vraiment. Le reste, ça s'est très bien passé. J'étais vraiment contente, et ça m'a réconciliée avec l'accouchement, quoi.
Et Gabriel, du coup, comment il a réagi sur le fait d'avoir une petite sœur?
Bah, Gabriel, au départ, il s'est vraiment demandé ce que c'était, même si on l'avait préparé pendant la grossesse. Hein. On lui en parlait pas trop, parce qu'on s'est dit, bon, quand même, 9 mois, c'est long, donc on va pas le bassiner avec. Mais voilà, on avait quand même acheté des petits livres, comme il adore les livres, voilà, vraiment en disant, petit loup va être grand frère, etc. On avait acheté des livres, on lui avait montré quand on avait installé le berceau, etc. Voilà, on l'avait investi quand même de ce côté-là. J'avais été en magasin acheter du coup un petit cadeau pour lui pour la naissance, et que lui choisisse un cadeau pour du coup le bébé, pour lui dire, bah écoute, ce sera pour le bébé, ce sera toi qui lui donneras. Et donc, au final, il a plus joué avec le jouet qu'autre chose. Mais au départ, il s'est vraiment demandé ce que c'était, en fait. Il s'est dit, c'est quoi ce truc-là qui crie? Donc au départ, il prêtait pas forcément attention. Après, il y a eu un peu de jalousie parce que ben c'est vrai que c'était un peu compliqué parce que Flo, malgré le premier confinement, lui son travail, il pouvait pas être en télétravail. Voilà, c'est un métier manuel, donc il continuait à aller travailler. À son travail et du coup moi j'étais non-stop toute seule avec les deux hormis du coup le soir quand il rentrait mais je veux dire du coup c'était un peu short de découvrir du coup la maternité du coup avec les deux en étant bloquée à la maison avec les deux non-stop, on était en appartement on avait un balcon mais bon en période de confinement c'était un peu compliqué parce que ma fille a fait deux sorties et puis après boum confinement donc de ce côté là c'était un peu dur d'être tout le temps toute seule avec les deux enfants qu'ils apprennent à se connaître et vraiment être à fond présent pour eux sachant que je pouvais pas aller voir ma famille je pouvais pas aller voir mes amis je pouvais vraiment pas sortir quoi donc ce côté là ça a été un peu difficile moralement quoi parce que du coup tu te dis t'accouches et puis au final t'es tout seul personne peux pas vraiment présenter ta fille et puis même ne serait-ce que pour Gabrielle voir autre chose que ma sœur elle arrive je me retrouve cloîtrée à la maison H24 je peux pas sortir je peux pas aller jouer je vois plus mamie je vois plus papy je vois plus personne ça a été un peu dur parce que j'avais peur en fait qu'ils pensent que ça y est en gros ma sœur est arrivée et puis en gros je suis punie de tout j'ai plus d'école j'ai plus de rendez-vous médicaux j'ai plus rien
et ouais.
Donc j'avais peur qu'il associe ça en fait, au final par la suite mais bon, pour lui, notion coronavirus, il a pas trop compris quoi.
Et comment ça se passe pour tous les deux aujourd'hui ?
Aujourd'hui non, franchement ça se passe bien et tout, il lui fait des câlins, des bisous, franchement ça se passe bien. Après il y a de la jalousie quand même, maintenant les premières chamailleries arrivent, parce que elle a 14 mois maintenant, lui il va avoir 5 ans, donc il y a des petits caractères qui s'installent, Gabriel est un super tempérament aussi, donc c'est assez sport, mais bon, sinon il l'aime, tous les matins il lui fait des câlins, des bisous, quand on va le chercher à l'école pareil, sinon ça se passe, dans l'ensemble ça se passe bien.
Est-ce que vous avez déjà réfléchi à la manière dont vous allez en parler à ta fille plus tard ?
J'ai pas encore réfléchi à comment on allait annoncer à Maïli plus tard que son frère est différent. Je pense qu'elle s'en rendra compte par elle-même, mais j'ai pas encore réfléchi à quel moment. Pour l'instant, non, parce que c'est vrai qu'elle est toute petite, elle a que 14 mois, mais bon, oui, le moment va venir forcément à un moment donné d'expliquer les choses, mais j'ai déjà plein de bouquins qui traitent de ça, de la différence, etc. Donc je sais que je pourrais aborder les choses dans un premier temps dans un petit livre, etc. Là-dessus, je pense que je ferai d'ailleurs comme ça. Et puis après, on mettra les mots qu'il faut, mais je pense qu'elle va s'en rendre compte aussi quand elle ira à l'école, etc. Je pense que oui, elle pourra s'en rendre compte, je pense, à ce moment-là.
Est-ce qu'aujourd'hui, toi, il y a des mamans qui débarquent dans l'univers de la trisomie, comme toi, t'as pu connaître il y a bientôt 5 ans, pour te demander des conseils
Alors, suite à l'émission dans laquelle j'ai participé, via les réseaux, du coup, j'ai beaucoup de mamans qui reviennent vers moi pour me poser plein de questions, pour me dire je suis enceinte, j'ai appris que mon bébé allait être trisomique, je ne sais pas quoi faire, je ne sais pas si je vais continuer la grossesse ou non, qu'est-ce que je dois faire. Alors, c'est vrai, quand on me pose cette question-là, c'est un peu difficile parce que je vais dire non, faut absolument que tu le gardes ou faut que tu avortes, meuf, qu'est-ce que t'attends ? Je peux pas me permettre de dire quelque chose comme ça parce que autant les deux positions, je peux très bien les comprendre et je ne juge personne. Donc quand on me pose cette question-là, c'est vrai que je leur dis, je peux pas décider à ta place en fait. Faut que t'en discutes avec ton conjoint ou ton mari et que tu saches. Dis-moi après pour le coup, ça je ne peux pas t'aider. Je peux dire oui, c'est mon vécu, ce que je connais. Les moments, certes, t'auras des moments difficiles comme t'auras des moments extraordinaires en fait où toute chaque progression c'est une joie immense. Mais après, je peux comprendre que forcément c'est un engagement. À vie et qu'il y a des moments qui sont pas simples non plus, mais je peux pas décider pour la personne. Et il y a d'autres mamans qui, elles, me contactent quand elles sont devant le fait accompli ou bébé surprise comme moi à la naissance. Et que je les réconforte, je les guide dans les choses qu'il faut faire, les démarches à suivre, parce que bien souvent, c'est vrai qu'on leur dit pas non plus. Et je me dis, c'est vrai que moi, c'est ce qui m'a manqué au départ quand j'ai commencé, même si j'ai très vite rencontré Fred et Franck et Laura. Mais au départ, j'avais personne, en fait. On n'avait personne. Au départ, j'avais personne et c'est ça qui était... je me dis, j'aurais aimé avoir ce soutien-là au départ. Donc oui, je le fais avec plaisir.
Et alors, qu'est-ce que ça a changé pour toi, la maternité ?
Ah bah la maternité, ça a tout changé hein, dans ma vie. Hein. C'est vrai que je me dis, avant, j'étais jeune et insouciante. je me dis vraiment oui, que j'étais jeune et insouciante. Et je me dis qu'avec, bah là maintenant, ça fait 5 ans que je suis maman, presque. Ça a tout changé en fait. Je me dis vraiment, bah, même du fait de Gabriel m'a fait énormément évoluer et grandir. Il m'a appris tellement de choses. Je me dis, dès son plus jeune âge, il m'a appris tellement que c'est juste incroyable en fait. C'est vraiment, on s'imagine pas en fait tout ça. Puis même moi avec voilà le son handicap et tout, ça m'a fait vraiment mûrir, grandir encore plus, avoir ouais, la soif d'apprendre, de connaître plein de choses sur l'évolution de l'enfant, le développement, apprendre plein de techniques d'apprentissage différentes, choses que tu n'aurais pas forcément cherché à savoir autant de choses quand tu as un enfant lambda, parce que là, du coup, tu côtoies tout le temps des professionnels, donc de par ça, tu t'intéresses encore plus et tu apprends plein de choses. Et je me dis, bon, là, je vois avec ma fille, ça m'a appris énormément de choses, en fait. Ouais, non, ça change tout d'être maman. Même là, voilà, du fait de l'expérience que j'ai eue avec Gabriel, bah, j'ai pas l'impression d'avoir 27 ans en fait. J'ai l'impression d'avoir beaucoup plus en fait. Je me dis ouais, j'ai pas une mentalité de d'une femme âgée, hein, pas du tout. Mais voilà, mon expérience a fait que j'ai pas l'impression d'avoir que 27 ans en fait. Sur le plan mental, non en fait.
On va passer aux petites questions de fin d'épisode. Alors, c'est quoi pour toi être une maman parisienne ?
Pour moi, être une maman parisienne, je pense que c'est une maman comme partout, en fait. Hein, mais comme partout. Je pense pas qu'il y ait de différence, même si oui, tout le monde dit qu'à Paris, on est beaucoup plus speed, etc., qu'on court tout le temps. ce qui est pas faux. Hein. C'est vrai, quand on va ailleurs, ils sont plus à la cool. Et des fois, je me dis que je les envie parce que nous, on est toujours dans le speed. Mais autrement, je pense qu'on est toutes pareilles. Hein. On veut être bienveillante et faire tout pour nos enfants, quoi, comme n'importe quelle maman.
Quel est ton endroit kids-friendly préféré avec tes enfants, où t'aimes bien aller avec eux ?
Vraiment l'endroit préféré où j'aime aller avec les enfants, bah, c'est au parc, tout simplement. Avant, on habitait à côté de la poudrerie et on y allait très souvent. Et sinon, j'aime bien aller à la ferme aussi avec les enfants.
Et quels sont tes projets rien que pour toi et ceux prévus en famille ?
Alors, projet rien que pour moi, je pars en week-end demain, rien que pour moi, toute seule, pour la troisième fois en 5 ans. Donc ouais, ça va faire du bien. Et projet en famille, ben pour l'instant, j'aimerais bien pouvoir partir en vacances en famille, mais situation actuelle sanitaire fait que pour l'instant, rien de prévu. Mais sinon, ça aurait été bien, ouais, pouvoir partir en famille. Partir en vacances en famille, j'aurais bien voulu, là, mais pour cet été. Mais bon, on n'a rien réservé encore pour l'instant. Bon, comme on ne sait pas, pas trop de projets vraiment fiables, on va dire, avec le contexte sanitaire un peu compliqué.
Merci beaucoup, Megan.
Merci beaucoup, Shane, en tout cas, c'est très gentil.
Merci d'avoir écouté Le Tourbillon, et si ce podcast vous plaît, vous pouvez le soutenir en mettant un avis et 5 étoiles sur votre application podcast. Cela m'aidera beaucoup. Pour échanger sur le sujet abordé avec Megan, laissez vos commentaires sous la photo de l'épisode 85 sur le compte Instagram Le Tourbillon Podcast. Et moi, je vous donne rendez-vous mardi prochain pour un nouvel épisode qui parle de la maternité, la vraie.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Hey, I'm Guy Raz, and on my show, Wisdom from the Top, I talk with CEOs and business leaders about the toughest challenges of their careers.
There's lots of ways to measure success.
Sometimes a company has to bet against itself.
We wanted to set ourselves apart by having a point of view.
Businesses really impact people's lives in pretty fundamental ways.
On Wisdom from the Top, some of the greatest business leaders of our time share their intimate stories of leadership, innovation, and transformation. Stories you won't hear anywhere else. Check out Wisdom from the Top only on Luminary. Now, back to your show.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.